est donc la priorité. Est-ce que je trahis un secret si je dis que vous êtes né en 1951? Est-ce que vous avez une idée du nombre d'habitants qu'il y avait sur la planète au tout début des années 50?
Je dirais 3 milliards.
Ouais, c'est même un peu moins de 3 milliards. Hein. 2 milliards et demi, on mesure évidemment le chemin qui a été parcouru et qui a été parcouru rapidement. Alors comment la population a évolué ces dernières décennies et comment va-t-elle évoluer ces prochaines décennies? L'ONU fait régulièrement des projections. On regarde tout de suite, avant le débat, ce que ça donne.
8 milliards d'humains. 8 milliards d'individus, tous singuliers, peuplent à présent la Terre. Un chiffre particulièrement difficile à appréhender. Se sent-on vraiment plus serré que dans les années 50? Oui, parfois, mais pas toujours. Quand on regarde cette carte, on voit à quel point la densité de population sur la planète est inégale. Puisqu'on ne peut pas se fier à nos impressions, regardons les chiffres et fouillons nos archives par la même occasion. Dans les années 50, quand la Belgique célébrait l'Expo universelle, nous étions moins de 3 milliards sur Terre. En 1974, nous sommes 4 milliards, et voici ce qu'on nous explique au journal télévisé.
À l'échelle de la population mondiale actuelle, chaque jour, le nombre de naissances dépasse de 200 000 celui des décès. Aussi est-il devenu courant de parler d'explosion démographique.
En 1998, nous sommes 6 milliards, et ce n'est pas si loin, c'était déjà le même présentateur.
Bonjour à tous, nous sommes, et oui, 6 milliards d'êtres humains sur la Terre, soit 600 fois plus que la population belge.
4 milliards en 74, 6 milliards en 98, 7 milliards en 2011, 8 milliards en 2022, où cela va-t-il s'arrêter? Peut-être bien autour de 2060, selon l'ONU. Nous serons alors 10 milliards d'habitants sur Terre et le chiffre ne devrait progresser que très peu par la suite. La courbe pourrait même commencer à descendre à la fin du 21e siècle. Quel est le pays le plus peuplé du monde? La Chine. Oui, c'est encore vrai pour quelques mois. Mais dès l'an prochain, il faudra répondre l'Inde. En fait, dans les prochaines années, 8 pays vont concentrer la hausse démographique. L'Inde, le Pakistan, l'Égypte, l'Éthiopie, le Nigeria, les Philippines, la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Les taux de fécondité en Europe et en Afrique n'ont plus rien à voir. En fait, si l'on se projette dans pas si longtemps, en 2050, un enfant sur deux naîtra en Afrique. Ça fait 40 ans que l'ONU fait des projections démographiques et au niveau global, les prédictions n'ont quasi pas évolué. Ce qu'on imaginait il y a 40 ans, 10 milliards 500 millions d'habitants à l'horizon 2100, est toujours valable aujourd'hui. On parle dans le scénario moyen de 10 milliards 400 millions. Mais là où les démographes s'étaient trompés, c'est dans la répartition. Les projections pour l'Amérique et l'Asie ont été revues nettement à la baisse, celles pour l'Afrique nettement à la hausse, le double de ce qu'on imaginait il y a 40 ans.
C'est une science complexe, Bruno Masquelier. Est-ce que ces projections que l'on vient d'entendre, hein, faites par l'ONU, qui récolte toute une série de données qui viennent de partout dans le monde, qui les analyse, qui les compile, est-ce que ces données, elles sont absolument fiables? Quelle est la marge d'erreur?
Je pense qu'il y a deux sources d'erreurs potentielles. Il y a d'abord les données dont on dispose aujourd'hui pour savoir si on est vraiment effectivement 8 milliards et comment a pu évoluer récemment la fécondité et la mortalité. Et là, clairement, il y a encore un peu d'incertitude, notamment parce que il y a un tiers des décès seulement qui vont survenir aujourd'hui dans la journée, qui vont être enregistrés dans des registres d'état civil.
C'est difficile à comprendre. Un tiers des décès seulement, oui.
Un tiers des décès. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup d'incertitudes sur ces deux tiers, majoritairement dans les pays africains, dans les pays à forte mortalité. On est obligé d'utiliser des enquêtes, des recensements pour reconstituer cette information partielle. Les naissances, un peu mieux, 70% des naissances sont enregistrées, donc la fécondité, on a un peu moins d'incertitudes à cet égard. Donc ça, c'est la première source, les données existantes. La deuxième source d'incertitude, c'est sur les hypothèses qu'on va faire. Comment est-ce qu'on peut projeter la fécondité, la mortalité dans le futur? Alors, en matière de mortalité, par exemple, est-ce qu'on peut continuer à croire que l'espérance de vie va continue sa tendance à la hausse qu'on a observée depuis très longtemps, en fait. Et en matière de fécondité, qu'est-ce qu'on peut prévoir pour les pays à très basse fécondité aujourd'hui, où on est sous le seuil de 2,1 enfants par femme, dont on aura l'occasion peut-être de rediscuter, hein. Est-ce que ça va remonter? Est-ce que ça va rester à des niveaux très bas? Et à l'inverse, dans les pays à forte fécondité, on a parlé de l'Afrique, des pays comme le Niger, par exemple, où on a une fécondité encore de 7 enfants par femme, Quand est-ce que la baisse va s'amorcer? À quel rythme? Et une fois qu'elle est amorcée, est-ce qu'elle se maintient ou est-ce qu'au contraire, on a des cas où, après une certaine tendance baissière, on se stabilise à des niveaux élevés? Donc il va falloir faire des hypothèses sur cette dynamique-là, la mortalité, la fécondité, et aussi la migration si on est à l'échelle des pays. Et tout ça va, du coup, effectivement, nous donner une certaine marge d'incertitude. Maintenant, cette marge, elle est relativement limitée.
C'est ça. Mais donc, il y a d'une part les données, vous l'avez dit, et puis d'autre part les hypothèses. On le disait à la fin de la séquence que l'on vient de voir, que par exemple, si on revient 40 ans en arrière, les démographes qui avaient alors travaillé avaient sous-estimé, hein, par exemple, l'évolution de la population africaine. Ils avaient par contre surestimé ce qui se passait en Asie et en Amérique latine. C'est intéressant, hein, de regarder ça. Il y a quelques tableaux qui peuvent le montrer. Donc, pour ce qui est de la population mondiale, en 1981, quand on faisait des projections à l'horizon 2100, on était à la même somme, hein, quasi 10 milliards 500 millions et 10 milliards 400 millions. En revanche, tout a bougé à l'intérieur de ce chiffre, si on regarde. Pour l'Asie, on prévoyait 5,9 milliards d'habitants à l'horizon 2100. Aujourd'hui, on n'en prévoit plus que 4,7 milliards, c'est-à-dire 20% de moins. Si on regarde les chiffres de l'Amérique latine, on passe de 1,2 milliard à 680 millions, selon les projections les plus récentes. Et pour l'Afrique, on projetait en 1981 2,2 milliards d'habitants en 2100. Aujourd'hui, on en projette donc le double. Ça veut dire que les mouvements tels qu'on les imagine n'ont pas toujours la vitesse qu'on imagine. C'est-à-dire que la transition démographique, par exemple, a été beaucoup plus rapide qu'on ne l'imaginait sur le continent asiatique.
Oui, effectivement. Après, il faut être honnête, 1981, la première fois que les Nations Unies font cette projection à l'horizon de la fin de ce siècle, c'est juste avant, plus ou moins, au démarrage de la politique de l'enfant unique en Chine, qui va avoir quand même un effet sur la fécondité. Donc ça explique en partie pourquoi l'Asie a eu cette baisse plus rapide qu'anticipée. En Afrique, ce qu'on a pu observer, c'est un déclin de la mortalité qui a été moins rapide qu'on pouvait l'espérer. Ça joue aussi sur la fécondité. Quand la mortalité est très élevée, ben, on a tendance à maintenir un niveau de fécondité élevé. Il y a un peu d'incertitude là-dessus. Et puis, on a aussi un développement économique qui est en retard dans cette région par rapport aux autres régions. Donc. Mais après, c'est quand même remarquable de noter que les démographes, dès 1981, nous prédisaient 10 milliards et demi, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Je pense que c'est... En fait, finalement, la question, c'est que peut-être cet horizon de 2100 est un peu loin. Plus vous allez loin dans le futur, plus l'incertitude augmente.
Si on fait des projections à 2050, en fait, la plupart des gens sont déjà nés
voilà,
dans la population
ça.
2050,
voilà, c'est
ce qui n'est pas le cas pour 2100.
Exactement. Ouais. Vous et moi, on peut espérer qu'en 2050, on sera là. En 2050, deux tiers de la population de 2050 est déjà vivante aujourd'hui. Donc il suffit de nous faire survivre jusqu'à 2050. Mm-hmm. Par contre, la fécondité, quand vous rajoutez un enfant, ben lui devient un futur parent. Et donc la fécondité, ça joue beaucoup plus que la mortalité. Si je recule mon âge au décès de quelques années, ça joue pas énormément sur la dynamique. Mais si je rajoute un enfant ou je l'enlève, c'est un effet multiplicateur. Donc l'incertitude sur la fécondité, elle va avoir un impact beaucoup plus grand. Et cet impact, il va croître à mesure que je prends un horizon le plus lointain possible. Donc finalement, sur cette question de planète, faut-il arrêter de faire des enfants, etc., je pense que l'horizon 2100 est un peu trop loin, c'est un peu trop demandé aux démographes. 2050, c'est peut-être un peu plus raisonnable, et là, on est plutôt bon dans les prédictions.
Un petit mot quand même sur la part d'incertitude qui, j'imagine, doit rester toujours. On sait que, par exemple, pour ce qui nous concerne, nous ici, en Europe, on a à un moment donné la Seconde Guerre mondiale, et puis on a le baby-boom juste après. C'était pas forcément des événements qui étaient anticipables par les démographes, j'imagine, du début du siècle. On sait aussi qu'on va vers un monde qui sera sans doute plutôt instable dans les années qui viennent, parce qu'il y a une multiplicité de crises qui sont en train de s'empiler pour le moment et qui pourraient s'amplifier. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que, du point de vue des démographes, on essaye d'anticiper dans les modèles, ou bien là, on est obligé de se dire qu'il y a une part d'incertitude importante qui reste associée à ces modèles?
Alors ça, c'est vraiment une excellente question que je me pose moi-même assez souvent. Si vous regardez dans les années 70, ce fameux rapport Halte à la croissance qui nous prédit un effondrement plus ou moins maintenant, en fait, il nous disait on va avoir une situation où déclin de la production industrielle, déclin de la production alimentaire, chute de la population. Ça, c'est pas du tout intégré dans les projections démographiques pour le moment. Les démographes travaillent plutôt à poursuivre les tendances observées dans le passé. Et en fait, pour le moment, ça marche relativement bien. L'espérance de vie, malgré un choc massif comme le Covid, finalement, à l'échelle mondiale, on perd un an d'espérance de vie. Et puis finalement, on récupère assez vite, en fait, heureusement, avec toutes les mesures qu'on a mises en place, la tendance de l'espérance de vie qu'on avait avant. Donc on est plutôt dans cette logique de poursuite des tendances. Il y a peut-être un élément qu'il faut mentionner par rapport à cette incertitude dont vous parlez. On l'a dit tantôt, il y a cette dimension. On est déjà là, en fait, par rapport à 2050. Et puis, tout ne se joue pas sur la fécondité uniquement. Il y a aussi, si vous voulez, c'est un peu compliqué à expliquer, mais le futur de notre population est déjà inscrit aujourd'hui dans le présent, dans notre structure par âge. Le fait qu'on soit très jeune, par exemple, ça nous permet déjà de prédire, hein, dans un certain sens, l'évolution future. Donc en regardant le présent, on est déjà plus ou moins en mesure de prédire le futur à quelques décennies, en fait.
J'aimerais revenir sur un terme qu'on a utilisé tout à l'heure, le terme de transition démographique, Paola Gobi, parce que c'est un des outils, hein, pour comprendre l'évolution de la démographie. Cette transition démographique, elle s'est faite à des rythmes totalement différents en fonction du continent sur lequel on se trouve. Et les démographes et les économistes n'ont d'ailleurs pas toujours la même vision et la même grille d'analyse de cette transition.
Oui, donc on l'explique avec des outils différents. Mais donc, donc c'est important de revenir sur le concept de transition démographique, parce que c'est elle qui entraîne en réalité cet accroissement de la population. Donc la transition, c'est le passage d'un régime à haute fécondité et haute mortalité, qui s'équilibre entre eux, à un autre régime où la mortalité et la fécondité sont faibles et s'équilibrent. Mais pendant la transition, alors il peut avoir des écarts entre mortalité et fécondité. Normalement, la mortalité précède, en termes de diminution, la diminution de la fécondité, ce qui crée un écart et donc l'accroissement de population. Donc ça, c'est le premier aspect.
Et donc concrètement, on a des conditions de vie qui s'améliorent, un accès à la santé, ce genre de choses. Donc la population vit plus longtemps. Et puis dans un deuxième temps, en général, ces conditions de vie qui s'améliorent ont un impact sur le taux de fécondité.
Voilà, et donc ces conditions, on appelle ça en économie, en tout cas les facteurs qui poussent la transition démographique, il y en a tout un paquet. Le premier, on va dire, celui qu'on a le plus insisté en tant qu'économiste, c'est le capital humain. Et donc, au fur et à mesure que les économies se développent, alors il y a une plus grande demande de main-d'œuvre qualifiée, ce qui génère un rendement à être éduqué plus fort, ce qui veut dire que les familles investissent plus dans l'éducation de leurs enfants, ce qui veut dire que les enfants coûtent plus cher et donc on en fait moins. Donc ça, c'est le plus gros facteur. Après, il y a un facteur qui est directement lié à l'accroissement de la population, à la densité de la population. Et ça, c'est un argument que Malthus lui-même le disait, en disant que plus il y a de monde, moins il y a de ressources, et donc moins il y a de ressources, plus les enfants vont mourir, ou plus on va s'adapter pour avoir moins d'enfants. Mais cette même vision de plus de monde et moins d'enfants était déjà là juste après Malthus, avec un autre penseur qui s'appelait Sadler, qui, avec ce constat de plus de monde, moins d'enfants, c'est relié négativement. Il disait, plus de monde, en réalité, ça veut dire des effets d'agglomération qui peuvent être positifs, plus de richesses, et donc une explication plus moderne que plus de richesses amène à moins d'enfants. Donc ça, c'est deux facteurs, il y en a plein d'autres. Le statut de la femme, évidemment, est très important. L'accès au travail des femmes, la contraception en tant que moyen de satisfaire ce qu'on veut en termes de natalité, et il y en a plein d'autres.
Olivier de Scutter, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à associer croissance démographique, surpopulation, hein, parce que c'est souvent le mot qu'on utilise, à quelque chose de très négatif et une menace, hein, pour la planète dans son évolution. Et en même temps, on l'entend, souvent les causes de la croissance démographique sont des éléments assez positifs.
Oui, on avait dans les années 60 des alertes qui étaient lancées sur la bombe démographique. Hein, c'est le titre du livre célèbre de Paul Ehrlich en 1968, The Population Bomb. On avait très peur. Et en réalité, les pays en développement disent souvent, pour nous, la croissance démographique, c'est le résultat de nos efforts consistant à augmenter l'espérance de vie grâce au progrès de la médecine, de la santé publique, grâce à la réduction de la mortalité infantile. Et par ailleurs, ils voient comme un atout géopolitique une population très forte. Quand l'Inde a franchi la barre du milliard d'individus, ils ont célébré ça comme une grande victoire du développement. Donc la croissance démographique qu'on vit comme une menace parce que cela conduit à un épuisement des ressources et à des niveaux de déchets, de pollution que les écosystèmes ne peuvent pas absorber, c'est souvent vu par les pays en développement comme le résultat d'un processus de développement très, très prometteur.
C'est peut-être quand même intéressant, Bruno Masquelier, pour clore ce premier chapitre, de revenir sur ce terme d'explosion démographique que l'on voit souvent, de bombe humaine, de... Aujourd'hui, cette explosion démographique, ce n'est plus une réalité. On peut le... Vous avez déjà donné quelques éléments, mais on peut le formaliser comme ça?
Oui, clairement. Aujourd'hui, on célèbre le passage à 8 milliards d'habitants, parce que c'est effectivement une cause de célébration. C'est le signe d'un progrès, de la baisse de la mortalité. L'année dernière, il y a quelque chose qu'on aurait pu célébrer, qu'on n'a pas célébré. C'est le pic des enfants. On parle beaucoup du pic pétrolier. Est-ce qu'on a atteint le pic pétrolier? On a atteint le pic des enfants. Le pic des enfants, c'est-à-dire que jamais dans l'histoire de l'humanité, on aura autant d'enfants de moins de 15 ans que l'année dernière, en 2021. À partir de maintenant, ce nombre d'enfants, il va se stabiliser puis il va baisser, en fait. Sauf renversement subit de la fécondité. Des pays comme l'Inde, des pays comme la Chine, des pays comme le Brésil sont en dessous de 2 enfants par femme. Donc aujourd'hui, on est dans un monde où la fécondité est basse. Enfin, de plus en plus, on est autour de 2.
C'est un peu contre-intuitif, hein, quand on voit les chiffres.
Mais... C'est parce qu'on est des héritiers de la pensée malthusienne dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça fait des décennies et des siècles même qu'on a peur de cette croissance démographique, mais on n'a pas encore enregistré, et pourtant ça fait depuis 1960 que le taux de croissance de la population baisse, on n'a pas encore enregistré qu'on est dans une population qui va progressivement vers la décroissance. On va aller vers une stabilisation et à terme vers une décroissance. Donc l'explosion démographique n'aura pas lieu, ça c'est certain.
Oui, on peut peut-être faire juste une petite comparaison parce que c'est des concepts qu'on maniait beaucoup pendant la crise Covid. C'est pas parce qu'on a une croissance que le taux de croissance continue, lui, à augmenter. Donc on peut avoir un nombre qui augmente, mais l'augmentation est de moins en moins rapide et c'est souvent ce qui précédait le fait qu'on arrive à un palier et puis il y a une diminution. C'est des choses qu'on a appris à manipuler durant la crise et qui s'appliquent ici aussi.
Ouais, c'est vrai. Et une bonne illustration, c'est ce qui se passe en Inde. Hein. L'Inde, on le disait dans la petite séquence tout à l'heure, ce sera le pays le plus peuplé de la planète. C'est peut-être déjà le cas maintenant, mais en tout cas officiellement ce sera l'année prochaine. Dès l'an prochain, donc pays le plus peuplé de la planète, est-ce que c'est un handicap pour ce pays? J'ai posé la question à un économiste belge qui est installé en Inde depuis de très nombreuses années maintenant. Il s'appelle Jean Drez et il est professeur à la Delhi School of Economics.
Je ne pense pas que ce soit un problème très inquiétant. Ce qui peut paraître surprenant, mais je vais essayer d'expliquer ça. Je crois que le premier point à comprendre, c'est que le taux de fécondité en Inde est déjà en dessous du seuil de remplacement. Donc, d'après la dernière enquête démographique qui a eu lieu il y a 2 ans, le taux de fécondité maintenant est à peu près 2 enfants par femme. Donc, ça veut dire que bientôt, pas tout de suite, mais bientôt, la population va cesser de s'accroître et après ça, elle va décroître et peut-être décroître assez vite parce que la croissance exponentielle, ça va dans les deux sens. Donc, ça pourrait facilement réduire la population vers la fin du siècle à beaucoup moins que ce qu'elle est pour l'instant. Donc, ça, c'est le premier point. L'enquête a aussi révélé que la fécondité voulue, donc le nombre d'enfants en moyenne que les femmes indiennes veulent maintenant, ce n'est plus qu'un enfant et demi. Ce qui est assez surprenant, on n'aurait pas cru ça il y a 20 ans, que la croissance démographique freine et la fécondité freine si vite. Ça, c'est le premier point. Donc, pas de panique. Mais alors, le deuxième point, qui est à mon avis le plus important, c'est que toutes les mesures positives qu'il faut prendre pour freiner la croissance de la population, il faut les prendre de toute façon, pour d'autres raisons, que ce soit faciliter l'accès à la contraception, en particulier la contraception volontaire, que ce soit améliorer les soins de santé, que ce soit l'éducation, et en particulier l'éducation féminine, qui est absolument capitale dans ce domaine, que ce soit la sécurité sociale. Tout ça, il faut le faire de toute façon, et il faut le faire pour de meilleures raisons que de freiner la croissance de la population. Il faut le faire parce que c'est une question du bien-être de la population et des droits des citoyens. Donc, je ne crois pas que le souci de freiner la croissance ajoute beaucoup à ce qu'on doit faire dans tous ces domaines.
Faut-il limiter les naissances et est-ce possible? Ce sont les deux grandes questions que nous posons à présent. Alors, Philippe Van Parijs, on vient d'entendre Jean Drees dire que pour lui, les politiques coercitives, c'était certainement pas la solution. Est-ce que vous êtes aussi catégorique que lui? Parce que c'est une grande question philosophique. Est-ce qu'on peut avoir un impact sur la limitation des naissances? Est-ce qu'on doit juste faire les choses ou est-ce qu'à un moment donné, il faut des incitants un peu plus clairs? Quel est votre regard?
Il faut évidemment d'abord savoir si c'est nécessaire. Et donc un des messages, c'est de dire, on peut laisser aller les choses, il n'y aura pas d'explosion démographique et donc ça va aller. Seulement, moi ce qui me semble fondamental, c'est que cette évolution démographique, elle est extrêmement différenciée. Différents chiffres l'ont montré. Et donc, ce qu'on voit surtout, c'est un énorme déséquilibre démographique qui est en train de se profiler entre les continents qui sont en baisse démographique et, ou qui le seront très prochainement, et puis les continents, ou le continent qui est en croissance démographique. Je donne un chiffre, moi, qui m'époustoufle. Dans le cas de l'Afrique, l'Afrique était en 1950 à 200 millions d'habitants. Aujourd'hui, l'Afrique est à 1,3 milliard, pendant que l'Asie est à 4,6 millions. Mais la projection pour 2100, projection de la Banque mondiale, c'est que l'Afrique sera aussi dans les 4 milliards, comme l'Asie. Et donc, au même moment, la population européenne est en train de décroître. Et donc, ce qui fait qu'on a à notre frontière sud un continent qui est occupé démographiquement, qui continue à exploser, qui continuera encore à le faire pendant un certain temps, en raison de cette énorme inertie. Donc dans la projection de la Banque mondiale, on n'est pas encore à la stabilisation à l'échelle de...
Et vous en tirez quoi comme conclusion?
Et alors, on tire comme conclusion qu'il y a là un grand défi pour l'Afrique, mais aussi pour l'Europe. Parce que, je le disais la semaine dernière dans The Guardian, il y avait un article de la secrétaire générale adjointe des Nations Unies qui expliquait qu'en raison du changement climatique, qu'on pouvait prévoir dans la décennie qui vient, un déplacement de population.